Accès libre avec Luc Fortin.
Salutations à vous! Accès libre édition du 22 mai. Toujours en compagnie de Véronique Pagé qui passe le mois de mai avec moi.
Bonjour Luc.
Bonjour Véronique.
Bonjour.
Véro qui est directrice du gym Biomax sur Laurier dans les locaux du Centre de réadaptation Lucie Bruno.
Tout à fait.
Aujourd'hui, on va causer, d'ailleurs, vous aviez tout à fait raison, Véronique, de dire que ça devrait être assez touchant, cette émission. D'abord, on va découvrir ou redécouvrir les services du phare.
Mm-hmm.
Pas évident de parler de soins
palliatifs
pour les jeunes.
Toute une mission.
Oui, ouais, franchement, là, c'est particulier. Une maman qui en a plein les bras à un point tel qu'elle a dû placer son fils. On va parler à Fanny Cyr. Pour vous donner une petite idée, là, il y a plein de lettres, son fils. TDAH, TSA, troubles de l'attachement et bien d'autres choses.
Ouais, c'est très touchant.
Oui. Le texte dans Planète F est assez remuant. Et le théâtre aphasique, qui célèbre ses 20 ans, bientôt, ils reviennent de France.
Oui.
Alors, vous connaissez, vous, Isabelle Côté? Vous
oui, je la connais, une belle personne qui a plein de choses à nous dire aujourd'hui.
OK. Première entrevue, elle a été faite un petit peu plus tôt, faute de possibilité pour les deux personnes d'être présentes à ce moment-ci. Donc, vous aurez compris que Véronique, elle, ne pouvait pas être présente en même temps.
Voilà.
J'ai causé avec Sophie Langteau, directrice générale de Société Logique, et également François Meunier, qui lui est porte-parole et vice-président de l'Association des restaurateurs du Québec. On a parlé des terrasses. D'ailleurs, je vais vous représenter tout ce monde-là. C'est sûr qu'on va parler de mes petites terrasses sur Sainte-Catherine-Est, du côté de la partie piétonne. On dirait qu'à chaque année, avec Sophie Langteau, je parle de mes terrasses. Je pensais que ça serait réglé cette année, Sophie Langteau.
Ben, il faut
vous
croire
aussi?
Qu'ils sont encore aménagés comme ils sont aménagés depuis des années.
Mais pourtant, je pensais que Ville-Marie, c'était réglé.
Il faudrait poser la question à Ville-Marie.
Ouais.
Ils ont un règlement d'occupation du domaine public qu'ils font appliquer. Mais là, pourquoi sur Sainte-Catherine-Est, qui doit être considéré plutôt comme une rue piétonne quand c'est fermé?
Ça changerait
la donne.
Il
faudrait poser la question à l'arrondissement.
Nous le ferons. Sophie, qui est directrice générale de la Société Logique, également au bout du fil, François Meunier, qui lui est vice-président et porte-parole de l'Association des restaurateurs du Québec. J'avais vraiment envie que l'on ait cette discussion-là parce que moi, je suis de ceux qui veulent travailler ensemble. Il faut trouver une solution pour tout le monde. Moi, le premier, j'ai pas envie, avec ma canne blanche, de faire trébucher un serveur avec trois bols de soupe au riz chaude. Peut-être avant, tout en vous saluant, François Meunier, Sophie, j'aimerais ça que vous nous rappeliez donc les normes. Qu'est-ce qu'une terrasse accessible? Et ensuite, on pourra arriver dans le vif du sujet pour savoir justement comment faire en sorte que cette terrasse-là soit idéale et efficace pour tout le monde.
OK. Bien, pour commencer, faudrait qu'on parle aujourd'hui des cafés-terrasses aménagés sur le domaine public. On ne parle pas des cafés-terrasses aménagés sur la propriété privée, l'espace entre le restaurant et le trottoir, qui sont des cafés-terrasses qui doivent répondre aux règles d'urbanisme de l'arrondissement. Là, on parle de cafés-terrasses qui sont aménagés sur le trottoir, le domaine public, un espace partagé par tous les usagers de la rue. Ça, c'est un premier point à préciser. Pour qu'un café-terrasse fonctionne bien quand il est aménagé sur le domaine public, bien, on parle de partage de l'espace. Il faut que chacun des usagers de l'espace public y trouve son compte.
Ouais.
On a des gens qui circulent, des piétons qui circulent sur le trottoir, et on a des piétons qui, quand ils circulent sur le trottoir, utilisent certains repères.
Ils emmènent plus large.
Bien, en fait, pas qu'ils emmènent plus large, mais qui ont des repères qu'ils utilisent habituellement dans le déplacement.
Ouais.
Luc, c'est des repères que toi, tu utilises quand tu te déplaces. Donc, compter les entrées, les bâtiments, longer la façade du bâtiment. C'est des repères qui sont essentiels, que si on les a plus, bien, on n'arrive pas à se retrouver. Donc, ça prend un espace qui est dégagé le long du bâtiment pour permettre aux gens qui sont habitués de circuler dans cet espace-là de continuer à le faire, même quand on profite de la belle saison.
Sophie, parfois j'entends 1,5, parfois j'entends 1,8 mètres.
Oui.
Quel est le bon chiffre?
L'idéal, ce qu'on devrait retrouver, c'est 1,8. Sur certaines rues où les trottoirs ne sont pas suffisamment larges, on peut aller jusqu'à 1,5.
OK. Donc, ça, on souhaite que ce soit le long du mur ou du commerce.
C'est ça.
Plutôt que du côté du trottoir qui sépare la rue. Et donc, de plus en plus, il y a ce que l'on appelle des contre-terrasses, c'est-à-dire des terrasses qui vont empiétrer dans la rue. C'est ce
ça.
Que je comprends.
Une terrasse qui va être aménagée sur la partie du trottoir qui est près de la rue et qui peut empiéter sur l'espace de stationnement également. Donc, une terrasse qui va être plus grande, dans le fond, que si elle était aménagée juste sur le trottoir en bordure de bâtiment.
Je ne sais pas si... Je présume que François, vous n'aurez pas cette réponse-là, mais je ne suis même pas sûr que Sophie, vous l'ayez. Y a-t-il des mesures à prendre pour être certain que ma canne, qui va dépasser, mais qui est... C'est normal là, que le serveur ne regarde pas à ses pieds. Ma canne est à peu près... 4 pieds devant moi. Donc, est-ce qu'il y a un truc, Sophie, pour que je puisse faire attention à une porte ouverte et un serveur qui risque de sortir? Savez-vous ça, vous?
Bien, en général, la plupart des commerces, on essaie que la porte ouvre pas directement sur le trottoir.
C'est sûr.
Hein? Les portes sont en retrait. Ça fait que pour moi, la porte, ça pose pas un problème.
Non, c'est pas la porte.
Qui est majeur.
Ouais. C'est
le passage du serveur.
C'est ça.
Le serveur circule. C'est sûr que il faut qu'il fasse attention aux piétons qui passent, mais quand le serveur se déplace dans un restaurant, ben il y en a aussi des gens qui se déplacent là, puis qui sont là, puis plein d'obstacles, puis une sacoche qui est dans le chemin, puis quelqu'un
mais y a
qui
pas,
se lève.
Ce que vous me dites, c'est qu'il n'y a pas de truc précis.
Il n'y a pas de truc.
Non,
okay.
Et,
François?
Martin, il y a beaucoup plus de chances que finalement, ce ne soit pas vous qui soyez la cause de l'accident, que ce soit un cycliste ou un autre piéton ou quelqu'un en roulant, par exemple. C'est davantage là, c'est, je pense pas que ce soit les non-voyants qui soient le problème dans le risque éventuel ou un serveur serait
une mauvaise rencontre. Là.
C'est ça, tout à fait.
Ouais. Mais qu'est-ce que, bon, vous, de votre point de vue, ce que vous entendez des restaurateurs, des commerçants qui sont tenus par cette réglementation-là, est-ce qu'il y a quand même des gens qui se disent « Ouais, au moins, on comprend le pourquoi, il faut trouver une solution plutôt que juste de dire « Ben, ça a toujours été comme ça, pourquoi ça changerait aujourd'hui? »
Bien, bien sûr qu'il y a un niveau de compréhension là, quand même assez important chez les commerçants en général. D'ailleurs, tous ceux qui n'avaient pas de terrasse avant les nouvelles normes, s'y adaptent et finalement c'est pas tellement problématique. C'est davantage dans le cas de ceux qui étaient là auparavant, où là on change les normes, les manières de faire. Ce qu'on n'a pas fait à la ville ou dans les arrondissements, parce que un des éléments qu'on constate, ce qui est dommage, c'est qu'on n'est pas arrivé avec un cadre réglementaire pour l'ensemble de l'île. Alors tout le monde a sa manière de voir les choses. Et la manière de voir les choses est différente. Vous parliez tantôt du 1,5 ou du 1,8.
Ben oui.
Ben, il y a des arrondissements qui sont 1,5, puis dans d'autres, c'est 1,8.
Mm-hmm.
Alors, on a de la misère à s'y retrouver. Et il y a un paquet d'autres exemples comme ça qui démontrent que finalement, on n'a pas travaillé afin de s'assurer une mise en œuvre harmonieuse. On n'a pas non plus cherché à s'assurer l'aval, l'appui, le consensus, l'implication des premiers concernés, c'est-à-dire les propriétaires de terrasses. On a adopté des règlements sans... Évidemment, tout le monde va nous dire que c'est public, c'est discuté au conseil de ville, mais je suis désolé, mais il n'y a pas de restaurateur qui perd le temps le mardi soir à écouter tous les règlements qui sont adoptés par les arrondissements. Or, j'ai des membres, moi, qui ont reçu les avis par huissier, là, en leur disant « Vous êtes plus conforme, vous devez vous conformer. » On aurait peut-être pu au moins, je ne sais pas, tenir une session d'information voici ce qui s'en vient, voici ce qu'on va vous demander de faire, voici le temps qu'on va vous accorder. Et c'est pas étonnant à ce moment-là, après, qu'on voit qu'il y a des gens qui grincent des dents.
Ouais. Et vous serez pas surpris d'entendre que du côté des organismes de défense des droits des personnes handicapées, on a le même grief, si on veut, à savoir, bon, ben, il faut recommencer le même combat 19 fois plutôt que d'avoir une réglementation, c'est toujours à refaire. Il y a des gens qui sont plus ouverts. Bon, on vient de parler deux fois dans l'émission d'hier aux gens de l'arrondissement de Verdun. Bon, c'est un arrondissement qui est plus ouvert que d'autres. Moi, sur Sainte-Catherine, ici, même si Ville-Marie est supposée avoir modifié sa réglementation, on l'a entendu avec M. Alain Croton, ben ici, dans l'Est, ça n'a rien changé. Alors, vous avez tout à fait raison.
Et j'ai pu constater, j'ai été effectivement me promener au centre-ville hier et il y a un paquet de terrasses qui, présentement, ne sont pas conformes. Alors, pourquoi on a des exceptions encore? C'est difficile à expliquer et c'est difficile à comprendre pour tout le monde. Et c'est davantage ça qui est la frustration. On n'est pas du tout là en train de remettre en question la légitimité des demandes des personnes à mobilité restreinte, des personnes non-voyantes, même finalement du simple citoyen qui veut avoir une libre circulation sur le domaine public. Mais il faut quand même comprendre aussi qu'on a toléré pendant des décennies des choses. Ouais. Et quand on veut changer ces choses-là, ben on doit s'assurer que les gens comprennent bien dans quel contexte on va le faire. Et s'il y a des cas d'exception, s'il y a il faut avoir un peu de gros bon sens. Parce que ce qui est rattaché à ces nouvelles normes-là, si ce n'était que le corridor de 1,5 ou de 1,8 mètres, ça irait. Mais il y a d'autres éléments. Notamment, vous pouvez pas aménager une contre-terrasse à moins de 10 mètres d'un arrêt d'autobus, à 5 mètres d'un coin de rue, à 5 mètres d'une bonne fontaine, à 1,5 mètres d'un sport à vélo. Et dans certains cas, il faut, à Plateau Mont-Royal, il faut avoir tout au pourtour, de la végétation, puis on doit aménager. Regardez, les gens pour qui l'occupation du domaine public, ce n'était qu'un calcul mathématique de X dollars multiplié par tant de pieds carrés, c'est aujourd'hui 11 000 $ d'aménagement de terrasse, parce que là, évidemment, l'aménagement contre-terrasse, vous êtes à la fois sur le trottoir et sur la rue, et là, vous êtes obligé d'avoir la plateforme, et la plateforme accessible aux personnes en fauteuil roulant. Ouais. Et tout ce qu'on demande sur le plan esthétique pour l'aménager avant, ben c'était pas compliqué. On mettait quelques chaises sur le bord de la façade au mur de l'établissement et ça se terminait là.
Mm-hmm. Sophie, vous vouliez...
Bien, en fait, oui, vous avez raison, c'est un peu plus compliqué que ce l'était. Il faut se rappeler qu'on occupe le terrain de la ville quand on fait ça. Hein? Puis le règlement d'occupation du domaine public, pour aménager un café-terrasse comme ça, il faut demander une autorisation, il faut déposer notre projet. Il y a des règles à suivre et donc ces règles-là, à un moment donné, ils étaient plus ou moins précises parce que les cafés-terrasses, ils ont poussé comme des champignons quand on a commencé à plus avoir le droit de fumer dans les restaurants puis dans les bars. C'est là que les cafés-terrasses se sont développés beaucoup, beaucoup.
Ouais.
Et ça s'est fait, puis là, ben maintenant, quand la ville a constaté, les gens ont constaté comment le domaine public était occupé, puis quel problème ça causait, ben il a fallu encadrer ça un petit peu là. Donc, on est dans cette étape-là. Mais les restaurateurs qui aménagent un café-terrasse ou le domaine public, ils connaissent les règles parce qu'il a fallu qu'ils fassent une demande.
C'est
une
vrai.
Demande de permis. Ceux qui font une demande de permis, puis qu'après ça, ils construisent pas. Ce pourquoi ils ont eu un permis, bien, ils sont en faute. Puis, c'est pas moi l'arrondissement Ville-Marie, mais l'arrondissement serait en droit de demander des correctifs à tous ces propriétaires-là. Les mesures de tolérance qu'on constate, probablement que c'est ça, là, pour donner aux gens du temps
ouais.
pour s'ajuster, c'est probablement dans cet esprit-là, mais on devrait s'attendre à ce que ça se resserre d'une année à l'autre. Je comprends que propriétaire...
Moi, ça fait 4 ans que à cette période-ci de l'année, là, mais dans mes émissions, je me plains des terrasses. Fait qu'à un moment donné, bon, ce serait le fun qu'on avance.
Il y a des arrondissements. J'étais sur la rue Beaubien dans Rosemont-Petite-Patrie la semaine dernière. Bien, tous les cafés-terrasses sont bien aménagé. Même chose sur la rue Masson, où il y en a eu beaucoup, beaucoup qui ont été aménagés cette année. Mmh. Puis ils respectent toutes les règles que l'arrondissement s'est donné.
François Meunier, est-ce que, je sais pas là, mais l'installation d'un petit pictogramme peut-être juste devant la sortie pour, à tout le moins au début, là, pendant une ou deux ans, pourrait aider les gens à être vigilants lorsqu'ils croisent une porte où un serveur risque de sortir?
Ben, il va falloir qu'il y ait des mesures de mitigation là, d'une certaine manière. Là. Et si c'est de l'affichage, ce sera de l'affichage. Moi, ce qui m'inquiète, là, c'est que si, à un moment donné, on a un réel problème en termes de sécurité pour les travailleurs, c'est que la CSST va s'en mêler. Mm-hmm. Et là, on va s'embarquer encore dans une lourdeur bureaucratique dont on ne verra pas la fin. Et là, ce ne sera plus du tout l'exploitant qui contrôlera quoi que ce soit. Là. On va imposer des normes, puis on pourra peut-être même arriver à la fin à dire que on ne peut plus tolérer qu'il y ait de terrasses tout court, là, sur certaines rues du moins. Là. Alors, on verra à l'usage comment tout ça va évoluer, mais c'est clair que les gens vont devoir s'ajuster. Et dans le cas des contre-terrasses, c'est pas quelque chose qui est arrivé hier. Là.
Ouais.
Il y a des contre-terrasses dans d'autres arrondissements. En fait, il y a 5 ans, il y a beaucoup d'arrondissements qui ne pouvaient permettre l'installation de terrasses, point. Il n'y en avait pas parce que, évidemment, le trottoir était beaucoup trop étroit pour le permettre. Ce qui est arrivé par la suite, c'est qu'on a dit, bon, ben si on pouvait utiliser le domaine public plus largement, et là, on parle évidemment des espaces de stationnement, c'est comme ça qu'on a pu permettre l'installation de contre-terrasses sur certaines rues comme Mont-Royal ou autres, mais avant, on ne le permettait pas, à moins d'avoir un élargissement. Donc, il n'est pas arrivé d'accident, à ma connaissance, là, dans ces endroits-là, plus que d'habitude.
Ouais.
Donc, les gens, effectivement, finissent par s'ajuster, puis s'adapter, puis à faire attention.
Ah, ben, je trouve que c'est une belle façon de conclure. François Meunier, merci beaucoup, beaucoup.
Ça me fait plaisir.
Je rappelle qu'il est vice-président et porte-parole de l'Association des restaurateurs du Québec. Et ben, Sophie Langteau, elle qui est une habituée de nos émissions, directrice générale de la Société Logique. François, Sophie, merci.
Merci.
Je bois systématiquement pour oublier les amis de ma femme. Je bois systématiquement pour oublier tous mes emmerdements. Je bois n'importe quel jaja,
jaja,
pourvu qu'il fasse son 12 degrés 5. Je bois la pire des vinasses, c'est dégueulasse, mais ça fait passer le temps. Tellement marrante, la vie est elle, tellement vivante. Je pose cette question. La vie vaut-elle d'être vécue? L'amour vaut-il qu'on soit cocu? Je pose cette question auxquelles personne ne me répond. Systématiquement pour oublier le prochain jour du terme. Je bois systématiquement pour oublier que je n'ai plus 20 ans. Et je bois j'ai des loisirs pour être sous, pour ne plus voir ma gueule.
Oh, ma gueule.
Je bois sans y prendre plaisir.
c'est tiré d'un album qui avait été pensé pour aider la maladie mentale, les gens qui avaient des idées noires suite au décès d'Eddie Fortin. C'est le Pamplemousse, le premier des deux Pamplemousses. Kevin Parent avec un texte de Boris Vian, évidemment, je bois. Bonjour, Joanne Desrochers.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Ça va très bien vous-même.
Oui, mais j'ai une drôle de question à vous poser. Comment peut-on aller très bien lorsqu'on travaille dans un milieu comme celui dans lequel vous êtes plongé jour après jour, vous qui êtes directrice générale du Phare?
Ben d'abord parce qu'on a la chance d'accompagner des enfants extraordinaires et des familles qui sont des super-héros dans des étapes de vie qui sont absolument cruciales. Alors, c'est un privilège qu'on a, puis je vous dirais qu'en plus, ce milieu-là attire des personnes d'exception, des personnes de cœur, des personnes passionnées par les enfants, par l'importance à donner aux enfants, par exemple, à s'amuser jusqu'au bout de la vie, qui est notre logo.
Et d'ailleurs, c'est ce que vous faites, vous accompagnez les enfants jusqu'en fin de vie.
Oui.
Peut-être nous dire un peu, bon, comment ceci vous arrive, parce que si je comprends bien, vous êtes capable d'en recevoir. Ben là, je ne sais pas s'il y a le phare et il y a la maison, ou si c'est deux choses différentes.
OK. Ben, peut-être pour clarifier, l'organisation s'appelle le Phare Enfants et Familles. Mm-hmm. Donc, on est totalement dédié aux enfants de 0 à 18 ans et à leurs familles proches, la fratrie. Et la maison André Graton, c'est l'établissement qui accueille les enfants qui peuvent venir dormir au phare, par exemple, pour diverses raisons. Il y a différents services qu'on offre qui sont offerts à la maison André Graton, mais on a aussi, à l'intérieur du phare, des services qu'on offre au domicile, comme le répit bénévole à domicile, qui est un service où on envoie des bénévoles qui sont formés ici au phare à accompagner un enfant à son domicile pour donner un répit aux parents qui peut, à ce moment-là, faire autre chose pendant que le bénévole est là. Il accompagne la famille et l'enfant.
Comment ça se vit, le contact avec ces parents-là? Ça m'intrigue un peu.
Comment ça?
Comment se vit le contact avec les enfants? Les parents, excusez.
Ben, je peux vous dire
comment on les accompagne? Pour moi, ça me touche comme maman.
Il y a plusieurs types d'accompagnement. Ça dépend du besoin du parent ou des parents, là. Par exemple, je vais vous donner des exemples concrets d'accompagnement qu'on peut offrir. Lorsqu'un enfant est diagnostiqué avec une maladie qui est à issue fatale, donc on sait que son espérance de vie n'est pas la même que vous et moi, par exemple, il arrive que les parents doivent prendre des décisions difficiles. Alors, ça peut être de les aider ou de les accompagner lorsqu'ils doivent prendre cette décision-là.
OK.
Ça peut se faire avec une équipe qui est interprofessionnelle. Donc, dans l'équipe, il va y avoir des psychoéducateurs, des animateurs, travailleurs sociaux, infirmières, médecins, clowns thérapeutiques. Il y a plusieurs personnes qui entourent la famille, qui entourent les parents et qui cheminent avec eux tout au long du processus de décision lorsqu'une décision doit être prise. Et ça peut arriver plusieurs fois au cours de la maladie que des décisions difficiles doivent être prises. Ensuite, on peut offrir des services de suivi de deuil à la suite du décès d'un enfant qui sont offerts soit à la fratrie, aux frères ou aux sœurs, ou aussi aux parents. Il peut y avoir aussi des situations familiales difficiles tout au long de l'évolution de la maladie, pendant lesquelles on peut aussi offrir du soutien et de l'accompagnement. Ça peut être, par exemple, en accueillant l'enfant malade au phare pendant quelques jours pour donner un répit aux familles pour qu'ils puissent passer à travers la période qu'ils sont en train de traverser, la crise qu'ils sont en train de traverser.
Les enfants qui vont dormir à la maison André Graton, eux, c'est parce qu'ils ont besoin de soins, parce qu'ils doivent se rapprocher d'un site hospitalier?
Il y a plusieurs types de séjours qu'on pourrait dire, là on va les appeler comme ça, qui peuvent être offerts aux enfants quand ils viennent ici à la maison. Le premier séjour, c'est un séjour où on offre un répit à la famille qui soutient au quotidien cet enfant malade. Alors l'enfant malade peut être accueilli au phare pendant quelques jours jusqu'à concurrence de 30 jours par année, pour que la famille puisse profiter de ces moments-là de répit, soit pour parce qu'il y a une fatigue, il y a une usure qui s'installe, soit pour faire une activité avec les autres enfants qui ne sont pas atteints là, de la maladie, par exemple. Ils peuvent prendre, les enfants qui sont admis chez nous peuvent recevoir jusqu'à 30 jours de répit à la maison André Graton. Et souvent, les familles choisissent plusieurs séjours de quelques jours. Alors, ils ne prennent pas un mois, là, rarement,
ouais,
30 jours en ligne, mais ça peut être plusieurs fins de semaine, ça peut être une semaine ici et là. Ça peut être lorsque, par exemple, la maman part accoucher pour un deuxième enfant. Il y a plusieurs raisons, là, il y a plusieurs motifs qui peuvent faire que les parents ont besoin de répit. Alors, ça, c'est un type de séjour. Ensuite, on peut les accueillir pour ce qu'on appelle la gestion de symptômes. Lorsque la maladie évolue puis il y a une détérioration de l'état de santé, l'enfant peut être aux prises, peut présenter différents symptômes comme de la douleur, comme des convulsions. Et puis, c'est possible qu'il soit admis ici pour qu'on puisse travailler avec l'équipe traitante qui suit l'enfant là, au quotidien, qui vient généralement d'un des centres hospitaliers universitaires spécialisés en pédiatrie. Alors, nous, on travaille avec eux pour la gestion de symptômes. Et puis, quand, par exemple, la douleur est bien contrôlée, contrairement à l'adulte, là, ici, on peut installer un protocole de gestion de la douleur et l'enfant, une fois qu'il est bien, il est prêt à retourner chez lui. Il continue son processus.
Les enfants qui arrivent chez vous, ce sont des enfants qui ont, disons, un diagnostic, qui vous sont référés. Comment ça fonctionne?
Bien, il y a plusieurs façons d'être référés, mais habituellement, les références viennent des centres spécialisés en pédiatrie où ils sont déjà suivis par une équipe là, interdisciplinaire, donc souvent un spécialiste, par exemple, un pédiatre, par exemple, une travailleuse sociale, une infirmière, et n'importe qui dans cette équipe-là peut référer l'enfant chez nous. Et l'autre exemple d'un autre type de séjour, ça pourrait être pour la fin de vie. Lorsqu'il arrive en fin de vie, un enfant qui est déjà venu chez nous en répit, qui est venu en gestion de symptômes, très souvent la famille choisit
de revenir vers vous.
Oui, qu'il y a un environnement qui est différent. C'est vraiment un environnement qui s'apparente à la maison.
Est-ce qu'il y a des bénévoles chez vous?
Énormément.
Oui, beaucoup.
On ne pourrait pas survivre sans les bénévoles.
Okay.
Ce sont des personnes extrêmement importantes qui sont formées. Il y a tout un programme de formation pour les bénévoles. On travaille aussi à leur donner de la formation continue tout le temps qu'ils viennent au phare. Et les gens choisissent dans le bénévolat de faire ce avec quoi ils sont à l'aise. Il y a des gens qui choisissent d'être auprès des enfants, il y a des gens qui préfèrent faire des tâches plus administratives ou plus loin, mais tout le monde contribue à la hauteur de ce qu'il a envie de faire.
C'est vraiment beau.
Merci beaucoup, beaucoup, Joanne Desrochers.
Merci.
Ce fut court, mais c'est quand même assez révélateur. Merci d'avoir été là et bonne continuité, vous qui êtes là depuis 6 mois à la direction.
Est-ce que je peux me permettre un dernier message?
Rapidement.
S'il y a des gens qui veulent nous aider, ils peuvent toujours donner au phare mafaiteencadeau.com. C'est le site à aller chercher pour pouvoir aider la mission à se poursuivre.
Les détails sur la page d'Accès Libre. Après la pause, un autre moment tout aussi touchant. À tout de suite.
Vous écoutez Accès Libre.
Avec Véronique Paget, Rémi Hermoso à la mise en onde, Anne-Laure Janson à la recherche, Kevin Breton du côté des réseaux sociaux, mon nom est Luc Fortin. Et au bout du fil, Fanny Cyr. Bonjour Fanny.
Bonjour.
Bonjour.
C'est à cause de Marie-Ève Paradis, si on vous cause aujourd'hui, elle qui, sur Planète F, a écrit un texte qui, moi, et d'ailleurs, je pense, Véronique, je ne me trompe pas en disant que ça nous a remué beaucoup et... On a juste une petite vignette de ce que vous vivez, vous, maman de Nicolas, non fictif. Nicolas qui est âgé de 15 ans, qui était apparemment trop dangereux pour rester à la maison. Merci beaucoup, beaucoup de vouloir nous en parler. J'ai envie que vous nous présentiez Nicolas.
Écoutez, Nicolas, c'est un adolescent de 15 ans. Il va avoir 16 ans cet été. Il y a un trouble du spectre autistique. Dans l'ancien DSM, c'était un TED-NS, un trouble envahissant du développement non spécifié. Il y a aussi des problèmes. Il y a aussi un TDAH avec hyperactivité. Il y a un diagnostic qui s'est précisé ce matin, dont un trouble de l'attachement. Fait que dans le fond, c'est beaucoup de diagnostics pour un enfant de cet âge-là. Mais c'est un très bon petit garçon. Il a une capacité, il est capable d'aller bien pendant des semaines. On a assisté dernièrement à 5 très belles semaines que vraiment que ça n'en vient, que les intervenants viennent à un questionnement de OK, pourquoi qu'il est ici, il va super bien. Mais tu sais, ils savent aussi qu'est-ce qui l'a amené là, mais tu sais, qu'on se dit tous. on a un espoir qui va bien, oups, du jour au lendemain, il y a un élément déclencheur qui est très difficile à percevoir, puis vu qu'il y a beaucoup de difficultés à verbaliser ses émotions, à verbaliser qu'est-ce qui se passe en dedans de lui, ben c'est ça, ça sort qu'il commence à avoir des désorganisations. Là, on a assisté au cours des 3 dernières semaines à beaucoup de fugues, à 10 au total. Il revient souvent par lui-même, mais il y a des fois que c'était la police qui l'a retrouvé.
Quand il fugue, il se met en danger aussi. Quand il fugue combien de temps?
Il fugue environ, une 4-5 heures, mais c'est arrivé une fois qu'il a fugué pendant 7 heures de temps. Écoutez, le centre jeunesse où il est dans les Laurentides, fait qu'il est entouré de bois. Mmh. Fait qu'il s'en va dans le bois, écoutez, quand il t'appelle, là, le cœur de maman, là, c'est même pas descriptible comment qu'on se sent. On a peur pour lui. On se dit comment qu'un enfant peut être malheureux comme ça, se mettre en danger comme ça. C'est un cri d'alarme. Puis, dans le fond, c'est pas écouté, mais c'est écouté dans un sens, mais il y a la limite aussi qu'il n'y a pas de place non plus, il n'y a pas de lit d'hospitalisation. Beaucoup en santé mentale, là, spécialisé vraiment là-dedans. Ouais. Ils peuvent l'hospitaliser quelques jours, comme c'est déjà arrivé, mais qu'ils le ressortent aussitôt, puis le suivi, non, c'est ça, tu sais, c'est pas rigoureux, c'est pas un suivi, c'est un suivi qui devrait être pourtant très, très, très rigoureux, mais qu'il l'est pas, vu qu'il y en a tellement de cas comme ça. Je suis pas la seule, là, je l'ai vu aussi après l'apparition de l'article, il s'est presque rendu à 5000 partages sur Facebook. J'ai eu beaucoup de messages privés des gens qui me disaient, moi aussi, on vit ça, ou qui ont des jeunes enfants qui ont des diagnostics comme ça, de TSA.
Fanny, vous y avez pensé combien de temps avant de placer Nicolas?
Ah, écoutez, j'y ai pensé quelques mois. Ça a été une grosse décision. Bien sûr. Mon conjoint, on en parlait beaucoup. On se disait jusqu'à quelle limite qu'on va se rendre, parce que là, c'était rendu qu'il y avait tellement des désorganisations que...
Et vous avez deux autres enfants aussi, là.
Oui, il pouvait s'en prendre à ma plus vieille, là, quand il était vraiment fâché. Là, il pouvait s'en prendre à elle. Fait que, là, tu te dis, tu sais, puis elle... Et tu sais, quand même, elle a 10 ans, fait qu'elle en a conscience de tout ça, là, puis ça lui fait de la peine. Puis tu peux pas faire, dans l'optique, on se dit, on peut pas faire vivre ça non plus à nos filles, là, qui développent aussi des problèmes de santé mentale, là, à force de vivre ça. C'est difficile pour un enfant de vivre avec ça.
Dans l'article de Marie-Ève Paradis, il semble que votre entourage avait un petit peu un regard plus ou moins favorable avec l'idée de placer Nicolas. Pourtant, je veux dire, on voit bien l'impuissance, là.
Puis tout l'amour que vous avez aussi pour lui, on le sent.
Oui, oui. Merci.
Oui.
Mais la famille immédiate, quand je dirais mes parents, la belle famille, eux autres, ils ont été témoins, des désorganisations. Ils savaient comment c'est difficile. Mais imaginez des grands-parents. Tu sais, c'est leur cœur de grands-parents aussi, tu sais. Puis eux autres, c'est le cœur de grands-parents. Ils nous comprenaient, mais quand je parle de l'entourage, c'est les amis que, tu sais, oui, ils savaient le diagnostic, mais autant que ça, que, tu sais, le visuel, quand tu le vis pas, tu n'as pas d'image dans ta tête, c'est quoi? Tu sais, quand je disais que c'est vraiment le film Mommy, c'est vraiment ça. Quand les organisations arrivaient, c'était comme ça. Tu sais, fait que vivre ça, là, 2, 3, puis 4 fois par semaine, n'importe quel être humain aurait. C'est difficile pour un être humain de vivre ça. C'est difficile pour lui, c'est difficile pour nous.
Oui, le texte de Paradis fait état de destruction, de violence assez importante. Par contre, il semblerait que le centre jeunesse, un an en, appelons ça, cure fermée, là, ça lui sourit. Mais là, vous me dites que, disons, un peu moins depuis 3 semaines, là, il a essayé de profiter du printemps un peu trop, là.
Oui, c'est ça, ça a été, tu sais, mais il est comme, tu sais, beaucoup aussi fluctuant, tu sais, dans son humeur, tu sais, il peut aller comme des... Puis c'était comme ça aussi à la maison, il pouvait être des périodes qui pouvaient bien aller, un élément déclencheur, tu sais. Là, il a changé de place. Écoutez, la transition s'est faite, ça a bien été. J'avais beaucoup, quand Marie-Ève Paradis est venue, tu sais, j'étais dans un espoir que là, c'était la première fois depuis plus d'un an que je le voyais bien comme ça.
Ouais.
Fait que, tu sais, l'espoir était là. C'était, tu sais, c'est un milieu plus encadré. Ça lui a fait du bien pendant un temps, mais oups, il a recommencé. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'à faire toutes les places, c'est pas la place non plus qui est recommandée, tu sais, que moi, dans mon cœur de maman, ça correspond pas à mes valeurs, cette place-là. Mmh. C'est pas ça que je veux pour mon fils, mais des places comme que moi, j'imagine dans ma tête, il y en a pas.
Mais là, avez-vous le droit de continuer à le voir? Parce qu'à deux reprises le texte, on faisait état de, bon, dites-lui que...
Que vous ne le reprenez pas.
C'est ça, pour qu'il fasse son deuil.
Les intervenants, ils ont été beaucoup dans... Ils voulaient me faire dire vraiment, pour qu'il fasse le deuil, écoutez, dites-lui que vous ne le reprenez pas à la maison. Tu sais, parce que moi, je disais, j'ai espoir de le reprendre s'il va bien, tu sais.
Ben oui.
S'il va vraiment bien, oui, j'ai l'espoir de le reprendre, puis c'est normal, c'est mon enfant, on l'aime, on veut l'aider, il a une capacité, on croit en lui, tu sais, il n'y a aucune déficience, il a des très belles notes à l'école, il a une capacité d'apprendre, il a une anxiété de performance aussi, qui veut tout le temps performer, il se met des objectifs dans sa tête très haut, puis il les atteint, il est capable de les atteindre, tu sais, mais ça prend plus de temps que les autres, mais il a une capacité d'apprendre, fait que moi, je crois vraiment en lui.
Vous aimeriez qu'il soit suivi à Rivière-des-Prairies?
Oui, j'aimerais, mais écoutez, comme que j'ai eu un rendez-vous chez le pédopsychiatre ce matin. Vraiment, Rivière-des-Prairies, c'est la dernière place. Et dans le fond, c'est qu'il faut qu'il fasse des désorganisations pendant un laps de temps à tous les jours. Mais là, nous, on s'en approche.
Ben, voyons. Écoutez, on parle de combien de temps pour qu'ils prennent ça en considération?
Écoutez, il faut que le centre jeunesse... Là, dans le fond, il faut que le centre jeunesse ait tout fait. Là, il reste une chose à faire... c'est de l'envoyer en détention, OK? Vraiment, la détention, la prison, là. C'est la détention, lui pourrait bénéficier de l'encadrement intensif un mois, vu qu'il est à risque pour lui-même et pour les autres.
Okay.
Fait que, dans le fond, il pourrait passer un mois là intensif. Il peut pas se sauver. C'est impossible, impossible, impossible. Il sort dehors, c'est une cour fermée. Tu sais, avec vraiment comme une prison, c'est la dernière place qu'il peut faire. Quand il va avoir fait cette place-là pendant un mois, qui va revenir, puis qui recommence, c'est là qu'ils vont l'hospitaliser. Mais tu sais, imagine le traumatisme d'un enfant, puis le traumatisme de parent, de voir ton enfant rendu là, il n'est pas délinquant, il n'a commis aucun crime à part de, tu sais, il y a une maladie mentale, trouble mental.
Est-ce qu'il comprend que toutes ces tentatives, c'est pour essayer de trouver une situation qui lui convient?
Je pense que non, il n'y a pas conscience. Pour lui, dans son cœur, on l'a abandonné.
Ouais.
Mm.
Pour lui, dans son cœur, il a son espoir. Là, il veut revenir à la maison. Puis écoutez, moi, je vais le voir à toutes les semaines.
Ouais.
Tous les dimanches matin, je pars, puis je vais le voir, puis je vais passer du temps avec lui là-bas. Écoutez, c'est tellement dur. Puis à la fête des mères, il m'a écrit une carte en disant... j'espère qu'un jour, maman, on va se dire que tout ça est derrière nous et j'espère qu'un jour, on va pouvoir vivre encore ensemble. Tu sais, il comprend, il espère, lui aussi, il y a un espoir dans sa tête qu'un jour, que ça allait mieux. Puis moi aussi, là, tu sais, comme je disais à ma fille l'autre fois, tu sais, je disais, est-ce que tu comprends qu'est-ce que je fais? Elle dit, oui, je comprends. Puis j'ai dit, tu sais, j'ai dit, maman, fais ça parce qu'un jour, j'ai dit, je veux qu'il soit assis avec nous. Puis elle dit, moi aussi, elle dit, c'est ça que je veux. Elle dit, je l'aime. Puis tu sais, on a des bons moments avec lui, là. Tu sais, il est très drôle, il est très gentil.
Ouais.
Il est serviable, c'est un bon petit garçon. Fait qu'il est reconnaissant, il a une gratitude beaucoup, beaucoup envers la vie, envers les autres. Mais quand il se met à aller mal, tu sais, c'est comme... Il se fait du mal à lui-même, là. Fait que c'est pour le cœur de parent, pour un cœur de parent, ça se décrit même pour voir son enfant vivre ça.
Est-ce que, Fanny, vous avez, on oublie peut-être le biais de la mère qui aime, mais si on avait peut-être une piste de solution à proposer au système de santé, quelque chose qui serait peut-être réaliste. Bon, comme vous l'avez dit, il n'y a pas de lit disponible. Mais qu'est-ce qui aurait pu être ou qui pourrait être fait qui n'a peut-être pas été fait selon vous?
C'est que, dans le fond, le CRDI, moi, il a arrêté de venir un moment. Il y a peut-être 2 ans de ça, un petit peu après la rentrée des classes en 2013.
Okay.
Il a recommencé à aller bien. On était vraiment une bonne période. Il était au régulier. Au secondaire, il était au profil hockey aussi. Il avait des bonnes relations sociales avec ses amis. Ça allait très bien. Fait que le CRDI ont décidé de fermer le dossier.
Ça, c'est le Centre de réadaptation en déficience intellectuelle.
Donc, c'est aucun ça. Suivi d'eux après, il n'y a plus rien.
Non, c'est okay. Ça. Fait qu'il y a un vide ensuite. Fait que, dans le fond, là, graduellement, ça recommence un petit peu les comportements. C'est rien, mais tu penses qu'il va bien pareil. Tu te dis, bon,
oui.
C'est juste une passe. Là, c'est comme une escalade aussi. Là, là, du jour au lendemain, l'escalade, elle se fait tout d'un coup, là, comme une montée en flèche. Là tu essaies de ravoir des services, tu appelles, mais là, le temps que les services...
Pour redémarrer la machine.
Oui, redémarrer la machine, c'est là que ça a vraiment dégradé, que on n'a pas eu le choix de passer, mais on a passé par les centres jeunesse. Mais tu sais, dans le fond, moi, la piste de solution, c'est qu'il n'y ait pas d'arrêt de service, qui s'est fait dès le début, puis... Dans le fond, qu'il y ait vraiment un travail multidisciplinaire de fait, autant avec l'école, autant avec la pédopsychiatrie, avec les divers intervenants, parce que je vais vous dire, moi, qu'est-ce que j'ai observé. Le multidisciplinaire, il est très, très dur. Pourtant, c'est qu'est-ce que prône le gouvernement en établissement du système de santé, c'est l'interdisciplinarité. Je sais, je travaille pour le système de santé. Fait qu'on se fait prôner ça, mais ça se fait pas, moi. La communication se fait pas entre les divers intervenants. Fait que c'est ça qui est très, très difficile aussi, je vais vous dire. Fait que peut-être dans le réalisme, l'immédiat, c'est arrêter les arrêts de service aussi. Puis tout le temps aussi d'attendre pour avoir un diagnostic que fait que la situation, elle peut s'empirer. Écoutez, mon fils, ça fait 9 mois qu'il est parti. C'est perdre, à place de le prendre tout de suite en charge, moi, je considère qu'il a perdu presque 1 an de sa vie, là. 1 an à être malheureux comme ça, à place de l'avoir pris dès le début, mais la réalité du Québec, c'est que non, c'est pas comme ça, tu sais. C'est presque gagné à la loterie.
Oui, non, ça prend... Pour avoir quelque chose, ça prend un diagnostic. Dans n'importe quelle sphère, malheureusement, c'est comme ça.
Mais tu sais, le temps d'attente pour avoir un diagnostic juste en TSA, c'est 2 ans.
Oui. Je suis obligé d'arrêter là, Fanny, mais gros
bonne
câlin.
Chance.
Ouais, gros câlin. Je sais juste pas quoi dire, mais j'avais envie de vous donner l'occasion de le dire.
Ben, merci beaucoup. C'était un honneur. Je suis vraiment touchée d'avoir participé à cette émission, puis de sortir. Tu sais, il y a beaucoup d'autres parents comme moi, je leur envoie beaucoup d'amour parce que c'est tellement, tellement difficile à vivre au jour le jour. Tu sais, quand c'est très difficile. Fait que tous ceux, lâchez pas, puis un jour, ça va arriver. Tu sais, qu'on va peut-être un jour avoir des services, puis que le gouvernement va développer plus de fonds.
Plein d'énergie.
Oui, on vous souhaite du soleil.
C'est beau. Merci beaucoup.
Fanny Cyr, maman de Nicolas, nom fictif, et encore une fois, c'est Marie-Ève Paradis qui nous a mis sur la piste avec son texte dans Planète F, puis ceux qui chicanent les journalistes, puis qui disent que les journalistes, c'est comme les vendeurs d'auto-usagers, là. Qu'est-ce qu'on ferait sans les journalistes? On va causer avec Isabelle Côté, qui est directrice générale et artistique du théâtre aphasique depuis 19 ans, ma foi, et probablement que l'aphasique le plus connu, c'est Jamil.
Est-ce que tu m'aimes? Mais oui, je t'aime. D'abord, il y a le mais. Ce mais qui m'épuise, ce mais qui m'insécurise, ce mais que je méprise. Après ça, il y a le oui, qui fait que ça fait mais oui, qui fait le oui tout petit, le genre de oui qui me scie. Est-ce que tu m'aimes? Mais si je t'aime, tiens voilà, là le si, ceci qui m'ennuie, ceci qui me scie, je l'ai dit, qui fait que ça fait mais si. Est-ce que tu m'aimes? Mais oui, mais si, mais bien sûr. Un bien, c'est pas très bien. C'est bien mieux quand c'est sûr. Bien sûr, c'est sûr, mais quand même, ça fait rien. Dans tout ça, rien ne me rassure. Si tu m'aimais vraiment, tu me le dirais tout court. Tout simplement, un oui d'amour. Si tu m'aimais vraiment, tu me le dirais comme ça. Je t'aime, voilà. Pourquoi? C'est comme ça.
Véronique, est-ce que tu craques pour une voix comme ça, toi, ou c'est pas ton genre de voix?
Oh non, j'aime bien. Okay. J'aime bien.
Ah, quand,
je
quand
craque.
C'est grave, là, puis...
Oui.
Oh, je t'aime.
Oui. Voilà. Je t'aime, c'est ouais. Beau, c'est... Oui.
Ça fait du bien aussi, là. On avait besoin de...
Oui, oui, on s'en remet un peu de nos émotions, là. C'était un petit peu chargé, hein?
Oui, c'est bien dit. Isabelle Côté, bonjour.
Bonjour.
Vous étiez là, vous aussi, à écouter Fanny, puis vous aussi, vous êtes maman, alors...
Ah oui, très touchée, vraiment, là. Moi aussi, j'avais le goût de lui envoyer de la chaleur, puis c'est
on était deux mamans, qui envoyaient beaucoup d'énergie, je pense, là.
Ah, mon Dieu, oui.
Vous êtes directrice générale et artistique du théâtre aphasique. Dans mes notes, on dit depuis 19 ans. C'est mm-hmm. presque le début, ça?
C'est pas mal le début, en fait. Oui, c'est
ça. Vous avez eu ou vous allez avoir 20 ans bientôt?
Nous avons 20 ans, okay. En fait, officiellement, le 27 novembre. Mais en fait, les activités du théâtre aphasique ont commencé en 93. Et c'est que nous avons incorporé, l'organisme a été incorporé en 95. Ouais. Donc, ça devient officiel là, en 95.
Okay. Là, vous revenez de la France.
Oui.
Qu'est-ce que vous faisiez en France?
Ah, c'est merveilleux. On était invités à aller présenter à faire des spectacles par un centre de réadaptation, un centre de rééducation fonctionnelle à Montfaucon. C'est qu'il y a une orthophoniste qui, à l'époque, faisait ses études en orthophonie, avait un bagage en théâtre. Elle communiquait avec nous parce qu'elle faisait son travail de maîtrise sur le théâtre et l'aphasie.
Okay.
Et puis, elle nous a demandé à un moment donné si c'était possible de venir faire un stage auprès du théâtre aphasique. Et elle est venue 3 mois au Québec. Passer 3 mois avec nous, venir faire les ateliers, venir faire les représentations, les répétitions, parce qu'elle avait dans le but, elle, de retourner chez elle et de refaire un théâtre aphasique chez elle. Et après son stage, elle a effectivement trouvé un emploi en France, donc à Montfaucon, dans ce centre de rééducation-là. Et la suite pour elle, logique, c'était de nous faire venir pour présenter le spectacle.
Wow! Comment ça a été?
Ça a été extraordinaire. Une semaine, mais quelle semaine!
Donc, une semaine, vous devez être complètement crevé, là.
Ben, en fait, les comédiens, je ne sais pas comment ils tenaient debout, parce qu'en une semaine, d'abord le dimanche, ils sont arrivés avec le décalage horaire, vous devinez. Le lundi, il y avait 2 représentations à Toulouse.
Ah, le lendemain, avec...
Le lendemain, décalage horaire.
Dans la même journée.
Est-ce que c'est un envolé de nuit, là, où on arrive, puis c'est le début du matin?
Oui. On part le samedi, on débarque le dimanche matin, on commence la journée. Okay. Et le lundi, en plus, on est à Montfaucon, 1h30 de route pour aller à Toulouse. Mmh. On refait une répétition, on fait 2 shows, bang, bang, dans la journée le lundi. Le mardi soir, un débat-conférence à Rocamadour sur l'aphasie. Le mercredi matin, un atelier de langage. Le jeudi soir, un spectacle à Montfaucon. Et puis avec tout ça, des visites, un gouffre, un tour de bateau, ça a été absolument une semaine folle.
Pourquoi l'importance... pour eux d'aller en France? Est-ce que c'est une sorte de consécration? Est-ce que, bon, on comprend que ça a sûrement inspiré les gens là-bas et tout, mais pour les gens d'ici?
Ben, pour les gens d'ici, c'est sûr que, bon, ça donne l'occasion à des gens de faire des voyages, gens qui n'ont pas l'occasion, beaucoup.
En soi,
on avait des gens qui avaient un baptême de l'air, gens qui n'avaient jamais été en Europe, tout ça. Donc, d'une part, on s'entend, c'est extraordinaire. Oui. Mais il y a en plus quelque chose de spécial, c'est que là, le statut du Québec est particulier. En France, on est vu beaucoup au niveau de l'orthophonie puis de rééducation du langage. C'est vu beaucoup comme de façon très avant-gardiste au Québec. Ah ouais. Notre travail est très reconnu. Il y a beaucoup, beaucoup d'orthophonistes françaises, belges qui s'intéressent à notre type de travail parce que c'est innovateur. Et ils trouvent ça vraiment là, osé, le genre de travail qu'on fait. Donc, on arrive là-bas avec cette expérience-là. Pour nous, c'est banal. Ça fait 20 ans qu'on le fait.
Ouais.
Mais pour là-bas, c'est vu comme, waouh, okay. On est des chercheurs. On sort vraiment de l'ordinaire.
Donc, l'accueil a été... prodigieux.
Oui, c'est des salles pleines, c'est okay. Des gens qui viennent voir les comédiens après, qui veulent avoir, qui ont beaucoup de questions, qui ont beaucoup de commentaires à faire aux comédiens, donc ils ont un retour extraordinaire.
Okay. Okay.
Pourquoi un théâtre aphasique? Parce qu'il y a plein de troupes de théâtre amateurs. Pourquoi une personne aphasique a-t-elle besoin de prendre part à une troupe de comédiens aphasiques?
Mm-hmm. Ben, pour retrouver des gens qui ont les mêmes difficultés qu'elle, évidemment. J'avais un comédien qui s'est intégré à la troupe il y a quelques années. Lui suivait des cours à Arneuf. Peut-être que vous connaissez Arneuf.
J'avoue que non.
Il donne des ateliers de théâtre. Il y a des cours de théâtre. C'est au centre Calix à la Vallée, au Parc La Fontaine. Mm-hmm. Et donc, lui suivait des cours amateurs, mais il dit, à un moment donné, je plafonne, puis les gens ne comprennent pas bien mes difficultés. J'ai beau arriver à mettre tout ce que j'ai, mais moi, j'ai pas d'expressivité. Lui a fait un AVC du côté droit. Il y a des séquelles qui sont pas aphasiques, mais différentes quand même, des problèmes de communication. Et il s'est dit, ben moi, on reconnaît pas ces problèmes-là dans cette troupe-là. Ils peuvent pas faire plus pour moi. Donc, il est venu nous voir, il est venu travailler avec nous parce qu'il travaille avec des gens qui, comme lui, ont des difficultés qui sont pas toujours les mêmes. Chaque personne a ses difficultés, même s'ils sont aphasiques ou qui ont tous un AVC.
Mais que pouvez-vous faire pour lui?
Ben écoutez, lui a de la difficulté, par exemple, au niveau de l'expressivité. Son visage n'exprime aucune émotion.
Okay. Neutre,
et sa voix non plus.
Okay.
Donc, on va travailler pour essayer de trouver cette expressivité-là, pour essayer de le rendre plus expressif au niveau de la voix, au niveau du visage. Donc, retrouver un naturel aussi, parce que dans la vie de tous les jours, il va sourire, il va avoir des expressions. Ouais. Mais quand c'est des expressions où on
ne sont pas nécessairement là, qu'il faut les jouer.
Là, ça devient très difficile pour lui.
C'est tout un travail pour eux d'arriver à faire du théâtre. Là.
Tout à fait. Puis les difficultés, elles sont majeures pour tout le monde, mais jamais les mêmes.
Okay.
Donc, pour certains, ce qu'ils vont avoir de la difficulté, c'est à articuler. Mm-hmm. Pour d'autres, c'est la mémoire. Pour d'autres, c'est l'organisation spatiale. Pour d'autres, ça va être... l'organisation de... ils vont être capables d'apprendre un texte, mais quand c'est le temps de travailler dans l'espace, ils ne se souviennent plus du texte parce que là, ils se souviennent juste des déplacements. Donc, c'est l'amalgame de tout ça.
Et là,
ça.
Quand on les met tout ensemble, là, ça doit donner des situations parfois un peu spéciales. Là.
Oui, mais ils sont extraordinaires ensemble. Ouais, ils finissent vraiment par s'aider. Ils ne veulent pas avec tout le travail. On travaille un spectacle au moins pendant un an et demi.
Ouais. Okay.
Ils savent les difficultés des autres. Puis ils savent qu'un tel, c'est la mémoire et tout ça. Et ils vont savoir que, généralement, cette phrase-là est plus dure à passer. Il y a quelqu'un qui va arriver puis qui va peut-être l'aider, okay. la dire, ouais. devancer. Ils s'entraident entre eux énormément.
Décrivez-moi le parcours du théâtre depuis ses débuts.
Alors, ça a démarré, on disait que j'étais là depuis pratiquement les débuts. C'est en fait Anne-Marie Théroux, qui était une orthophoniste à l'hôpital Villa Médica. Elle avait une formation également en théâtre. Elle a décidé de réunir quelques patients aphasiques, de faire des ateliers de théâtre avec eux pour voir jusqu'où ils pouvaient aller. Puis rapidement, on lui a demandé un spectacle parce qu'il y avait un gros événement qui se passait à Montréal. Et on lui a demandé de bâtir un show avec 10 personnes aphasiques. Et à partir de leur témoignage, elle a écrit un texte qui s'appelait « Le silence qui parle ». Elle m'a demandé déjà, au tout début, j'étais amie, collègue, théâtreuse, donc elle m'a demandé de venir l'assister dans son travail. Et puis, on fait le spectacle « Le silence qui parle ». Et ce spectacle-là a été présenté une première fois, puis ça a fait « boum ». Alors, on le refait, on veut autre chose, on veut grossir, on incorpore l'organisme et tout ça a déboulé. Anne-Marie a quitté assez tôt dans le processus, en 95, mais moi, j'ai... pris la relève, donc...
Et là, j'ai cru comprendre, lorsque vous étiez chez Catherine Perrin, qu'il y avait plus d'une troupe.
Ben oui, parce que là, on est rendu avec autour de 25 comédiens. Plusieurs shows en même temps, plusieurs projets. Donc, il y a 7 comédiens qui sont allés en France, mais là, sur les 24. Donc, il y a différents spectacles. Il y a un nouveau spectacle qui est en train de se créer. Un spectacle qu'on vient de mettre dans une petite valise, on vient de le serrer, le facteur temps, c'est tout. On doit passer à autre chose parce que ça roule tout le temps. Il y a toujours des représentations qui arrivent. Donc, on doit toujours avoir un spectacle de près. Là.
Est-ce qu'une fois qu'un spectacle a été joué par un groupe, on le refile à un autre groupe? Est-ce que dans les spectacles, il y a, supposons, des objectifs thérapeutiques ou...
C'est sûr que non, il n'y a pas d'objectif thérapeutique. Il y a des objectifs personnels. Quand on s'embarque dans une nouvelle production, c'est vrai qu'on va demander aux comédiens c'est quoi vos nouveaux objectifs.
OK.
Puis ça, c'est important. Les gens vont maintenant de plus en plus avoir des objectifs théâtrales. Je ne dis pas thérapeutiques parce que au départ, je vous dirais, les premiers spectacles, on disait aux comédiens « qu'est-ce que tu veux? » Puis ils disaient « je veux parler plus. Mmh. » Alors, on comprenait que là, c'était utiliser le théâtre pour parler davantage, pour m'améliorer
langage,
dans la vie de tous les jours. L'objectif était toujours ça, pour parler plus dans la vie de tous les jours. Mais là, maintenant, on le sent vraiment, quand on demande aux comédiens « c'est quoi leurs objectifs? » Ah, là, ça va être « j'aimerais ça faire rire. J'aimerais ça avoir un personnage différent de moi. » Là, on va avoir des objectifs plus théâtrales. C'est intéressant.
En terminant, c'est pour qui et comment peut-on joindre la troupe?
Ben, en fait, il faut passer par l'hôpital Villa Médica. On est logé là-bas. Et puis, si les gens veulent nous voir, ben, on a une représentation la semaine prochaine, le 28 mai, à la Grande Bibliothèque, un spectacle gratuit.
Pour fêter les 20 ans, Isabelle.
Pour fêter les 20 ans, tout à fait.
Donc, un peu comme on le disait avec Fanny, ça prend un diagnostic pour profiter de la troupe.
Oui, si on veut.
On s'en sort pas. Merci beaucoup, Isabelle Côté.
Merci, Isabelle.
Bon 20e. Merci, Véronique.
Bien, merci,
Dick. On se retrouve pour une dernière la semaine prochaine. Rémi, Anne-Laure et Kevin, merci beaucoup. Et à vous, portez-vous bien.